En cette marche durant l'Avent, nous continuons de nous tenir au désert. C'est comme ça que commence le texte d'Isaïe là, que nous avons lu en première lecture. Le désert est la terre de la soif qui ne se réjouissent. Eh bien, nous sommes au désert. Parce qu'au désert, c'est le lieu où on peut entendre parler de Dieu. Tandis que dans les villes, dans la civilisation des hommes, on entend parler de l'homme, mais pas du Seigneur. Voyez, pour Michée, les fameux textes de Noël, les textes qui annoncent cet enfant qui va naître et cette Vierge qui va concevoir, Michée, lui, a pour point de départ le peuple qui gît dans les ténèbres et le pays de l'ombre. Tandis que Isaïe, lui, nous parle de la terre de la soif et du désert. Alors, à première vue, il s'agit bien de la même situation spirituelle pour le peuple d'Israël, mais pour les hommes, les croyants en général, que ce soit pays de l'ombre ou le pays de la soif, ça paraît pas tout à fait, ça paraît vraiment identique. Pourtant, il y a une différence. Et les tonalités des deux prophètes, justement, s'accordent avec cela. C'est le pays des ténèbres. Ceux qui habitent le pays des ténèbres, ce ne sont pas seulement les croyants, ce sont aussi les incroyants. Et là, c'est le mal qui semble régner et établir sa domination sans que personne puisse lui contester. C'est un pays où il n'y a aucune espérance. Ce sombre pays est vraiment ténébreux. Il est dominé par le mal, il n'est pas orienté par Dieu, il est coupé de Dieu. Il est l'image de ce que sera, évidemment, dans le monde futur, ce triste royaume de l'enfer. Tandis que pour Isaïe, lui, le même pays, parce que... Il évolue un tout petit peu, ils sont contemporains, mais leur annonce est un peu décalée. Pour Isaïe, eh bien, il y a une espérance. Et le pays de la soif, c'est quoi? C'est le pays du désir. C'est pas le pays du bien-être, ça c'est sûr. Mais c'est au moins le désir du salut qui se fait jour et qui est donné comme remède. Dans le premier, ça rappelle l'Égypte. Ça rappelle l'esclavage des Hébreux tout au début, avant que Moïse ne soit suscité, où ils n'avaient que leur bouche pour se plaindre, et leur cri, eh bien, ils l'émettaient, mais même pas jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'entendre et d'y répondre. Leur cri en Égypte se perdait dans un monde sans espoir. Et c'est ça que la grande différence, là, je dirais, entre Michée et Isaïe. Jean-Baptiste, lui aussi, est un prophète. Et Jean-Baptiste, il n'est pas parfait, on le voit, il a un scrupule. Son scrupule, c'est Jésus est-il ultime? Est-il dernier? Ou alors devons-nous en attendre un autre? À quoi ça correspond? D'abord au fait que Jean-Baptiste n'était pas parfait, c'était un homme qui cheminait dans la foi. Et on voit là, on le voit, à un certain moment, il est emprisonné, il va bientôt mourir. Eh bien, il se pose quand même la question pour savoir si vraiment sa prédication a été selon la volonté de Dieu, puisqu'elle était toute tournée vers Jésus-Christ. Et Jésus va confirmer, bien sûr. Mais ce scrupule nous montre que jamais... En ce monde, nous ne sommes sûrs d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est une preuve d'humilité, en même temps qu'une tentation, qu'il lui faut une ultime purification dans sa prison que Jean-Baptiste doit vivre alors. La réponse de Jésus, c'est pas seulement « oui, c'est moi ». Elle est plus mystérieuse, apparemment. Elle donne les signes messianiques par excellence. On les a lus, je les reprends. Les aveugles retrouvent la vue, Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus répond aux envoyés de Jean. Et c'est à Jean encore qu'il faut conclure. C'est à lui de faire, de comprendre le sens de cette réponse. C'est pas seulement « oui, c'est bien moi », mais c'est aller plus loin que cela. Ça resterait extérieur, là. Tandis que là, Jean, ça permet à Jean le Baptiste d'entrer dans l'ère messianique et dans l'œuvre de Dieu. Alors, bien sûr, Jésus a guéri des tas de gens qui étaient malades, et il a converti des tas de gens qui n'avaient plus la foi. Mais c'est à prendre aussi au sens figuré, à ce sens spirituel auquel nous devons toujours boire. C'est l'accès à la foi qui mène au salut. Le sens spirituel, c'est ça. C'est tous ceux qui ne voyaient pas, les aveugles. Isaïe en parle, c'est même sa mission. D'apesantir encore davantage les yeux de ses contemporains qui ne veulent ni voir ni entendre. Quoi ? La parole de Dieu. Quoi ? La vérité. Eh bien, enfin, les aveugles peuvent voir la lumière de la vérité. Qui est véritablement Dieu et quelle est vraiment sa volonté ? Les boiteux peuvent commencer à marcher sur le chemin de la foi. Au lieu de rester toujours à leur place en regardant les autres aller vers Dieu ou s'en écarter, etc., etc. Et puis les pauvres reçoivent non pas de l'argent, mais les pauvres reçoivent la bonne nouvelle du salut. Parce qu'il faut spirituellement être pauvre de cœur pour la recevoir. Et qui sont les pauvres ? Ceux qui habitent le pays de la soif, le pays du désir, là où on veut trouver le Messie, là où on veut accueillir le salut. C'est le sens de cet avant que nous vivons. Il faut renouveler ces sentiments en nous, cette fraîcheur évangélique. Et il faut la faire nôtre. Il faut boire vraiment ces paroles du Seigneur pour que notre cœur retrouve sa fraîcheur première. Jésus ajoute aussi « Heureux ceux qui ne trébuchent pas à cause de moi. » Ça, c'est la preuve de son autorité ultime qui dépasse celle de tous. C'est aussi le fait que miséricordieux pour ceux qui viennent à lui, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont un cœur de pauvre, il est fermé à tous ceux qui sont le contraire, qui sont repus, qui sont riches, etc. Tous ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. Et puis, il y a ce commentaire sur Jean le Baptiste. Jésus nous introduit un peu dans le mystère de Jean, de sa vocation. Il insiste sur son importance d'abord. Jean, c'est le dernier des prophètes et c'est pourquoi il est le plus grand parmi les hommes, parmi les fils des hommes. Et il est le plus grand parce qu'il annonce, il montre, il pointe du doigt ce que tout l'Ancien Testament voyait de loin. Et vraiment, on peut dire qu'avec Jean-Baptiste, tout l'Ancien Testament est assumé, et elle est assumée à travers la figure du Messie, qui est évidemment le Christ lui-même, mais que Jean reconnaît et que Jean montre aux autres. Alors il a eu ce scrupule, mais qui lui mérite cet approfondissement de vocation de la part de Jésus, une analyse sur sa vocation et son cheminement. C'est normal d'avoir un peu de scrupule quand on va clore l'Ancien Testament. C'est sa mission, clore tout le prophétisme de l'Ancien Testament. C'est pas rien. Mais en même temps, même s'il est le plus grand des fils des hommes, donc des hommes, des croyants de l'Ancien Testament, il devient le plus petit par rapport aux habitants du royaume des cieux, qu'est-ce à dire ? Jésus introduit une réalité toute nouvelle, spirituellement parlant. Et vraiment, c'est vrai qu'on a pris une telle hauteur depuis l'Ancien Testament dans le christianisme. Et Jean, quelle que soit sa hauteur de vue, quelle que soit la profondeur de son ascèse, de son attachement au Christ lui-même, eh bien, est le plus petit dans ce royaume-là. Bien sûr, il a grandi depuis puisqu'il est accueilli au ciel. Mais au moment où Jésus formule ses propos, c'est pour nous montrer que les prophètes voyaient les choses de loin. Et quand on était comme Isaïe ou Michée au 8e siècle avant notre ère, on ne pouvait pas bien comprendre la portée des prophéties qu'on réalisait. Jean-Baptiste est le seul prophète à avoir parfaitement vu, mesuré la portée des prophéties qu'il transmettait au peuple. C'est le seul. Tous les autres voyaient de loin comme à travers un brouillard, même les plus grands des prophètes. Jean-Baptiste sait mériter cela, mais c'est le Christ qui le lui mérite. Et il lui donne cette leçon d'humilité, d'être le plus petit parmi les enfants de Dieu. Parce que cette œuvre de prophète, eh bien, elle est close désormais, et que finalement, une fois que Jésus est là, eh bien, il n'a plus aucune fonction, ni lui, Jean-Baptiste, ni ses prédécesseurs. Alors maintenant, la question se pose pour nous. Dans quel pays vivons-nous finalement? Est-ce le pays de l'ombre, un pays fermé, un pays qui est sans prophétie, un pays qui est sans Jean-Baptiste pour nous annoncer le Messie, pour nous donner envie d'aller à sa rencontre, pour aller au désert tout simplement et nous y recueillir? Ou est-ce le pays de la soif, ce fameux désert, cette intériorité qui nous est donnée? Voyez, trop d'hommes se donnent des maîtres en ce monde qui ne valent rien. Ce sont des hommes ou des femmes tout à fait ordinaires, voire tout à fait exécrables. Et ils les servent comme des dieux. Eh bien, choisissons la meilleure part. Suivons l'agneau comme immolé, comme égorgé que nous montre l'Apocalypse. L'agneau plein de douceur et de beauté, parce qu'il est amour et qu'il est vérité.